et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Pierre Jabot, assisté de Karen D. À la technique aujourd'hui, Grégory Wallon et Serge Viguier.
Avec cette semaine, une émission spéciale COP21 et mobilisation citoyenne avec une question. L'urgence pour le climat ou le climat des affaires?
So the COP is a conference of polluters.
Et donc la COP est avant tout une conférence des pollueurs.
C'est la COP21 qui est un contre-sommet, le vrai sommet des vraies solutions se tiendra à Montreuil ce week-end, ce samedi 5 et ce dimanche 6 décembre.
The planet belongs to us, not to corporations.
Dites-moi monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Agriculture paysanne et circuit court, relocalisation de l'économie, partage du travail et des richesses, reconversion écologique des productions, lutte contre l'étalement urbain et préservation du foncier agricole. Non, ce n'est pas le programme d'une liste qui vous aurait échappé pour les élections régionales, mais un rapide aperçu de la multitude d'alternatives qui existent pour relever le défi climatique. Et c'est de tout cela dont il sera question aujourd'hui et demain au Village mondial des alternatives à Montreuil, l'autre sommet pour le changement climatique. Ici, pas de chef d'État ni de sponsor de l'industrie financière ou nucléaire, mais des citoyens mobilisés pour proposer de vraies alternatives. Car quand BNP Paribas, grand financeur de centrales à charbon, et EDF, grand promoteur du nucléaire, sont tous deux partenaires de la COP21, il est permis de douter de l'efficacité des solutions qui seront trouvées à l'issue de ce sommet. Et l'on se demande même si les solutions envisagées ne seront pas avant tout des solutions pour maintenir le climat des affaires. Aujourd'hui donc, émission spéciale COP21 avec Antoine Chao qui a bravé l'état d'urgence pour assister aux nombreuses mobilisations citoyennes qui ont ponctué la semaine et Guy Vanctil qui, lui, vous emmènera pour une balade touristique d'un autre genre. Une visite des quartiers huppés de la capitale avec escale devant les principaux lobbies qui s'activent pendant la COP pour sauver la planète mais aussi et surtout leur business. Comme un bruit qui court, good cop, bad cop, avec ceux qui veulent changer le système, pas le climat, et autour des lobbies qui veulent sauver leurs affaires, un peu moins le climat. C'est jusqu'à 17h et c'est sur France Inter.
Antoine Chao, Charlotte Berry, Guy Vanctil.
I've seen 100 bad dreams waiting in the corner for me to come clean about what I've been doing and about where I have been. No, no, restless soul.
Alors on va faire une chaîne humaine pour le climat, pour de citoyens qui veulent indiquer leurs préoccupations envers le climat et qui veulent que les décideurs prennent vraiment des mesures énergiques et qui aussi veulent promouvoir le fait que les solutions existent et que chacun peut s'emparer de ces solutions et faire quelque chose pour le climat.
Et donc une chaîne humaine plutôt qu'une marche, hein, c'était une marche mondiale pour le climat qui était prévue.
Oui, la marche a été interdite à cause de la loi d'urgence et à cause des attentats du 13 novembre. Mais on a choisi ce mode d'action qui est un des modes d'action pour représenter la voix des citoyens dans l'espace public.
Le désastre qui vient. Edith, elle était là dimanche dernier sur le boulevard Voltaire, du côté des numéros impairs, pour cette chaîne humaine. Et beaucoup d'autres avec elle, militants écologistes et politiques, syndicalistes, notamment au sein de la coalition 21, citoyens qui se préparaient depuis longtemps déjà pour cette COP21, pour que la société civile ait voix au chapitre et que les négociations aboutissent. Et bim, la grande marche d'ouverture est interdite dans le cadre de l'état d'urgence, contrairement au marché de Noël sur les Champs-Élysées. Mais bon, il en faut plus pour décourager tous ceux qui se méfient de ces grands messes où intérêts financiers et politiques sont intimement liés, trop liés, pour que l'état d'urgence soit climatique.
A little bit slow, a clicking on the cobblestones, going
Kiko.
Sur France Inter.
Alors là, la chaîne humaine est en train de se constituer petit à petit. Les banderoles se déroulent. Alors là, c'est un collectif de femmes indigènes des Amériques.
Yo vengo de los Estados Unidos, yo vivo en California, pero soy.
Moi, je viens des États-Unis, j'habite en Californie, mais je suis centra-américaine.
Sharon Lungo.
Je m'appelle Sharon Lungo.
Del Salvador.
Je viens du Salvador.
Estamos aquí con grupos de base en las líneas primarias que están afectados por los problemas del clima.
Nous représentons donc les gens qui sont en première ligne et qui sont affectés par les problèmes de climat.
Y también aquí representando pueblos indígenas.
Nous représentons aussi les peuples indigènes.
Quienes tienen la sabiduría para poder cambiar.
Qui ont la connaissance pour pouvoir changer les choses.
Los problemas que actualmente estamos sufriendo.
Et régler les problèmes que nous connaissons, que nous vivons aujourd'hui.
Decimos abajo con las corporaciones multinacionales.
Et on dit halt aux grandes multinationales.
Bajo al capitalismo, que es al raíz de nuestros problemas.
Qui sont à la solde du capitalisme, qui est à la racine de nos problèmes, des problèmes que nous rencontrons.
Y queremos que nuestros gobiernos paren de usarnos como excusa para la guerra.
Et nous voulons que nos gouvernements arrêtent de nous utiliser comme des excuses pour faire la guerre.
Guerras del imperialismo, las guerras del petróleo.
Les guerres de l'impérialisme, les guerres du pétrole.
Las guerras contra el terrorismo en nuestro nombre, que realmente el terrorismo viene de nuestros gobiernos.
Les guerres contre le terrorisme aussi, parce que le terrorisme vient de nos gouvernements, des actions de nos gouvernements.
Climate justice, people power. Climate justice, people power.
Bonjour, le week-end prochain à Montreuil, le village mondial des alternatives.
Les 5 et 6 décembre.
Et oui, toutes les alternatives pour lutter contre le changement climatique de façon concrète au quotidien. Dans les rues de Montreuil, une grande fête populaire avec des concerts, des buvettes, des restaurations, tout bio, solidaire. C'est la seule manifestation publique qui est encore autorisée à la COP21 dans les rues. Donc voilà, on espère qu'il y aura plein de monde et que ce sera une grande fête réussie.
Et vous, alors, vous militez dans Alternativa ?
Oui, 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 je suis jusqu'au cou dans Alternativa, ouais, on peut le dire. Je suis au quartier Génial sur l'île Saint-Denis. Je suis nantais, en fait, donc voilà.
Et avec un message fort, non, qui vient de Nantes, c'est-à-dire ne pas relancer le chantier de Notre-Dame-des-Landes ?
Ah bah ouais, c'est un message très très fort, surtout que Barack Obama a abandonné son pipeline géant juste avant la COP, donc on attend que le gouvernement français fasse un geste, lui aussi, en abandonnant un projet climaticide. Donc Notre-Dame-des-Landes, c'est le candidat idéal. Voilà, c'est ce qu'on demande à Laurent Fabius, le président de la COP, simplement faire un geste, quoi, et laisser tomber Notre-Dame-des-Landes.
Abandonner Notre-Dame-des-Landes, enfin l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, enfin l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et soutenir Notre-Dame-des-Landes comme, justement, zone de développement différente, c'est ça ? Durable ?
Ouais, ouais. Une autre agriculture est possible, elle existe déjà à Notre-Dame-des-Landes, donc voilà, il faut continuer à utiliser les champs pour produire de la nourriture, plutôt que pour faire atterrir des avions, ça paraît logique. Donc ouais, bien sûr, on est complètement sur cette ligne, et on va la porter pendant toute la COP, donc on espère que ça va avoir des effets.
Monsieur Laurent Fabius, président de la COP21. COP21 ou aéroport Notre-Dame-des-Landes, il faut choisir. Écologiste différent de terroriste. Alors c'est une fanfare qui passe avec une banderole. Être soi-même, le changement, vivre en humain, digne, rêver, marcher, oser ensemble, prendre sa part, partager.
Nous sommes là.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Manger bio, c'est bien. En finir avec les fermes-usines, c'est encore mieux. L'état d'urgence est climatique.
Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud,
j'y crois, je décrois, un autre bordel est possible. Changeons le système, pas le climat. Maxime Combes, c'est mieux que rien cette chaîne humaine.
assez excellent. Ça dessert l'étau sur l'interdiction. Plusieurs milliers de personnes ont pu exprimer la diversité de leur message vis-à-vis de la COP21, vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis de, pour l'instant, l'inertie des négociations et de leur incapacité à réellement faire face à l'état d'urgence climatique. Et les gens étaient là, souriants, heureux, contents d'être ensemble et de montrer qu'il peut y avoir une expression publique, politique, citoyenne, sur les enjeux de dérèglement climatique et aussi pour faire face à l'état d'urgence. On a besoin de plus de tolérance, plus de démocratie, plus d'entraide, plus de soutien les uns les autres et plus d'intervention publique dans la période dans laquelle on est.
C'est le moment des négociations, en tout cas, de faire jouer le rapport de force pour sortir de l'ère des fossiles. C'est le titre de votre livre.
Sortir de l'ère des fossiles ne se fera pas simplement en attendant que les négociations l'obtiennent. Et donc, du coup, ça nécessite effectivement qu'on renforce notre pression citoyenne, notre engagement, et que nos alternatives, que les batailles qu'on mène pour bloquer les projets inutiles, puissent s'exprimer complètement. Et par exemple, il est excellent que la manifestation d'arrivée du convoi de la ZAD ait pu se faire dans d'excellentes conditions pour exprimer clairement face au gouvernement français qu'entre le climat et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il faut choisir, et qu'il est absolument impératif et urgent d'abandonner ce grand projet inutile comme bien d'autres.
Et Maxime Combe, vous êtes confiant sur ce qui va pouvoir se décider sur cette COP21 officielle ?
Nous avons des attentes relativement limitées par rapport à la COP21 parce que les États ont déjà mis sur la table leurs engagements en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements conduisent à un réchauffement climatique supérieur à 3 degrés, peut-être 3 degrés et demi. Et donc, on a un écart extrêmement fort entre le réel, ce qu'ils ont mis sur la table, et le souhaitable, ce qu'il faudrait limiter le réchauffement de 2 degrés. Et on sait que cet écart-là ne va pas être l'objet de la négociation. À l'ONU, on va négocier le futur accord qui va organiser la gouvernance du climat à partir de 2020. Le contenant, plus que le contenu, on va se limiter à discuter des mécanismes et des principes, qui c'est très important. Mais de fait, on va entériner des objectifs qui nous conduisent à plus de crimes climatiques pour demain. Et donc, c'est la raison pour laquelle il était très important d'être mobilisé aujourd'hui, ici à Paris, et de maintenir ces mobilisations pour les semaines à venir.
Gaiteros de San Jacinto, oye,
cuidado que caen bombas.
Pa' todos los hermanos de Buenaventura, ¡bum!
Cuidado que caen bombas.
A las madres de Pasto y Mocoa,
óyeme, cuidado que caen bombas.
Pa' los campesinos del Catatumbo, Santander,
cuidado que caen bombas.
Una clara conciencia revolucionaria y antiimperialista.
Cuidado que caen bombas.
Están castigadas en su propia vida. Y lo que es más injusto,
cuidado que caen bombas.
¡Viva Latinoamérica unida!
¡Cuidado que caen bombas!
Sentir como ella late impetuosamente.
¡Cuidado que caen bombas!
Con una clara conciencia revolucionaria y antiimperialista.
Y un peu plus loin, place de la République, il y a eu un autre appel à manifester cette fois-ci. Une manifestation qui n'a pas été autorisée. Et donc, il y a des petits cordons de police autour de cette place de la République où, là, il est 13h, dimanche 30 novembre, et les manifestants commencent à se réunir ici. Certains qui viennent de la chaîne humaine, qui viennent de se terminer. Et petit à petit, il y a le cortège qui s'étoffe aussi ici, place de la République, et qui se met à marcher sur les allées autour de la place de la République, une manif interdite qui se met en place pour justement revendiquer le droit de manifester. Et donc le cortège s'engouffre ici dans la vue de la République.
Ils ont ouvert là, tu vois, pour déconditionner là-bas, ils vont fermer derrière, et puis boum boum.
Parti.
Manifestation qui s'est soldée par 317 gardes à vue. Le droit de manifester, ça se défend de haute lutte et ça n'a rien d'une soirée de gala.
C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il porte?
En fait, il a nos Lobby Planète.
On a fait un petit guide, visiter le monde des lobbies à Paris.
C'est ça, parce que Laura, on s'était rencontrés à Bruxelles, capitale de l'Europe et capitale des lobbies européens. Et on avait fait un tour ensemble, vous nous aviez emmené sur ce lobby tour que fait l'Observatoire des lobbies à Bruxelles, le lobby tour, et là, simplement, c'est vous qui venez à Paris. À l'occasion de la COP21.
Voilà, on s'est associé avec l'Observatoire des multinationales, qui est une organisation française, pour proposer des visites guidées des lobbies à Paris. Et quel type de politique climatique demandent des industriels ?
Lobby Planète, spécial Paris, COP21.
Alors on va où là, comme ça, maintenant ?
On va faire un petit lobby tour autour de Champs-Élysées, le hotspot des lobbies à Paris. On va visiter EDF et quelques associations d'entreprises, surtout le pétrolier. On va visiter un cabinet de lobby qui s'appelle Fleshman Hillard. Et je crois que le dernier arrêt, c'est la Chambre de commerce américain.
Qui sont tous des acteurs impliqués à un degré ou à un autre dans cette COP21.
Oui, exactement. Donc, soit ce sont les entreprises mêmes qui sont là comme sponsors, qui essaient de plaidoyer à le gouvernement, soit ce sont les cabinets de lobby qui travaillent pour ces sponsors, soit ce sont les associations d'entreprises. Finalement, soit c'est le pays qui travaille avec les entreprises d'assurer que les intérêts de ces entreprises sont promus. Voilà.
Vous l'avez peut-être compris, nous allons retrouver quelques-unes des voix que nous avions rencontrées à Bruxelles en octobre dernier. À l'occasion d'un reportage, les voix de Laura Verheck et Pascal Sabido de Corporate Europe Observatory, qui avec le sociologue Sylvain Laurent nous avait montré comment les acteurs économiques, multinationales, lobbies et grands groupes pèsent d'un poids toujours plus lourd sur les décisions politiques qui influent sur nos vies d'Européens. Vous l'avez peut-être compris, ce ne sont pas des casseurs, pas des black blocs bas du front, mais des chercheurs engagés à décrypter les messages de com, à relever quels chiffres embarrassants sont consciencieusement omis des déclarations officielles. Bref, à décoder comment les marchés tentent de dicter leurs conditions à la marche du monde. Et à l'occasion de la COP21, ils ont édité une version spéciale parisienne de leur guide Lobby Planète. Comme un bruit qui court en lobby tour, visite dans les beaux quartiers.
Charles de Gaulle, étoile.
Attention à la marche en descendant du train.
Ashimoto ni gochui kudasai.
Ah ben voilà, là on est un peu à Paris touristique pour faire notre visite, c'est parfait.
L'Arc de Triomphe à côté.
Et on va par où là alors, Pasco ?
Donc maintenant je crois qu'on va à la siège de EDF. Pas loin d'ici, pas loin de Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe. On va voir comment ça se passe aujourd'hui.
Bah oui, parce que là, vous n'êtes pas sur votre territoire avec Corporate Europe Observatory. Normalement, vous faites vos tours à Bruxelles, sur les instances du pouvoir européen. Mais là, vous êtes dans la capitale mondiale du climat maintenant, c'est ça ?
Exactement. Et donc, en fait, ici à Paris, on va voir juste le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. La relation entre nos gouvernements et les pollueurs. Et en fait, c'est un problème systémique. Qu'il s'agit de l'influence de EDF et des autres sur nos gouvernements. Donc ici, on a EDF, on va essayer d'entrer.
Ah oui.
Mais comme tu vois, il y a une grande esplanade.
Oui, c'est une petite ruelle qui s'avance de l'avenue des Ternes.
Ouais, mais en fait, c'est privé. Même si ça nous semble assez public.
Ça ressemble à une rue parisienne, mais on est sur le territoire d'EDF.
Ouais, c'est privé. Bon, mais en fait, c'est 84% de l'État, EDF, donc peut-être ça appartient à nous. Qui sait, mais je crois que la Sécu n'a pas la même idée.
Nous voilà devant EDF. Et là, je vais tout de suite. D'ailleurs, je ne te retourne pas, mais derrière toi, il y a un monsieur qui arrive avec un badge autour du cou.
Oui, je pense que je sais ce qu'il va nous dire. Écoute.
Bonjour, vous êtes chez
l'AIR.
Vous êtes qui exactement ? Vous voulez quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?
Juste nous accueillir.
Voilà.
En fait, on est ici juste pour parler un peu d'EDF. C'est un sponsor de COP21, comme ils produisent l'électricité. Donc, c'est juste un tour guidé, en fait.
Et c'est des journalistes, en fait, qui sont là pour...
Des journalistes de quel pays ? Quel journal ? Quelle télé ? Est-ce qu'on peut avoir des infos ?
Eh bien, la presse française, Bastamag.
Radio France aussi.
Vous avez une carte ? Vous avez quelque chose ? Donnez-moi les cartes, comme
moi,
ça
va
être
plus
simple avec les...
C'est vrai, en plus.
Avec la hiérarchie.
Ouais, mais j'ai tout donné au salon Midipol sur la sécurité.
Ah ouais. C'était bien.
C'était vachement bien.
Wow. Ok, bah je vois ça.
Toi, merci.
Ok, so we're gonna start.
Ouais, on va commencer vite parce que sinon on va se faire éjecter.
Alors voilà, Pascal qui commence à parler en anglais. Alors pendant ce temps-là, on voit un hélicoptère qui nous vole au-dessus de la tête.
Donc on est devant EDF.
Et on est en train de leur expliquer que notre énergie à nous vient du nucléaire.
Donc EDF fait que 0,2% de renouvelables dans toute la production d'énergie d'EDF, et qui est aussi un sponsor de la COP21. Donc ils ont le logo officiel de la COP21. Donc là, ils parlent du prix des Pinocchio, qui en fait est organisé par les Amis de la Terre France et d'autres organisations, qui en fait dénoncent les pires entreprises en termes d'impact climatique. Et EDF est nominé sur le prix Pinocchio.
Pinocchio, c'est celui qui a le nez qui s'allonge quand il ment, c'est ça?
Voilà, parce qu'on a une catégorie qui est ce qu'on appelle le greenwashing, ce qu'on pourrait l'appeler l'éco-blanchissement.
Voilà, il y a ceux qui lavent plus blanc et il y a ceux qui lavent plus vert.
Exactement. Et qui cherchent à détourner l'attention et qu'on ne montre pas justement leur activité polluante. Donc, c'est ce qu'il explique en fait, que EDF essaye, qu'il n'y a pas beaucoup d'attention sur leur activité nucléaire en fait. Et la raison pour laquelle ils se sont impliqués dans la COP21, c'est pour essayer de continuer à avoir un soutien public pour son modèle économique, parce qu'il faut savoir que EDF ne peut pas continuer sur ce modèle sans ce soutien financier des pouvoirs publics. En France et ailleurs dans le monde, ils ont 16 usines à charbon, qui sont les plus vieilles et les plus sales d'Europe. En France, ils ont fait des efforts, mais en Pologne et au Royaume-Uni, les centrales à charbon d'EDF sont loin d'être propres. En fait, il y a eu même une publicité d'EDF qui disait « le nucléaire n'émet pas de carbone ». Et là, il y a eu en fait une ONG qui a remis ça en question et l'Agence française de publicité a donné raison à cette ONG en disant « EDF, ce n'est pas possible de faire des campagnes de pub en disant que le nucléaire n'émet aucun... »
C'était un peu trop gros, quoi.
Oui, c'est ça.
Produire plus d'énergie, c'est une nécessité. Mais préserver l'environnement, c'est vital. EDF s'engage à produire une énergie qui fera avancer le monde sans faire reculer l'homme. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur.
Donc, je m'appelle Olivier Petitjean, je suis journaliste pour Basta. Et
l'excellent journal.
Voilà, l'excellent journal Basta. Et je m'occupe plus particulièrement de l'Observatoire des multinationales, donc qui essaie d'informer et d'enquêter sur ce que font les grandes entreprises françaises à la fois en France et à l'étranger, que ce soit en termes environnementaux, sociaux, de lobbying, etc. Donc évidemment, avec cette COP21, on a été très occupés sur la question du climat, à regarder ce que font exactement toutes ces grandes entreprises françaises qui ont profité de cette occasion pour faire beaucoup de publicité, changer leur image, à l'exemple de GDF Suez qui a changé de nom pour devenir Engie, et qui a lancé des campagnes publicitaires vantant ses investissements dans les énergies renouvelables, qui en fait restent très minoritaires dans son portefeuille énergétique. Et donc c'est moins d'1% en fait, les vraies énergies renouvelables en France, et c'est pas plus de 2-3% au niveau mondial.
Vous avez remarqué comme petit à petit, le monde change. Le ciel est maintenant un terrain de jeu. Et l'information, les hashtags. GDF Suez est maintenant Engie. Car le monde change, et avec lui, toutes nos énergies.
En ce moment même, alors qu'elles font tout cet affichage, Total dit « maintenant on fait plus de gaz, moins de pétrole ». Engie dit « on va arrêter le charbon, on va faire les énergies renouvelables ». Concrètement, ce qu'elles font en ce moment, c'est quand même Total, elle adapte ses raffineries pour importer du pétrole issu des sables bitumineux canadiens, qui est la forme la plus sale de pétrole qu'on puisse imaginer. En ce moment même, donc elle se prépare bien à continuer à faire du pétrole, et même du pétrole très nuisible pour le climat. Et Engie vient de signer, comme EDF d'ailleurs, un contrat d'approvisionnement avec une entreprise américaine pour faire venir du gaz de schiste américain en France pour approvisionner les réseaux français.
Ouais, donc on n'est pas sorti des ronces avec cette COP21.
La raison d'être optimiste, c'est que ça reste vrai malgré tout que la conscience de l'enjeu climatique, elle monte. La réalité, c'est que ces grands groupes énergétiques, ils ont beaucoup d'argent et les distribuent à leurs actionnaires et ils ne les consacrent pas à investir à moderniser leur propre appareil de production et ils ne les consacrent pas à investir dans des projets renouvelables très peu proportionnellement à leur distribution de dividendes. Et le cas le plus flagrant, c'est celui d'Engie qui distribue en moyenne des dividendes chaque année deux fois supérieurs sur les 3-4 dernières années, deux fois supérieurs à leurs profits. Ça veut dire qu'elles donnent deux fois plus d'argent à leurs actionnaires chaque année qu'elles n'en gagnent en termes de profit. Et donc effectivement, on voit mal comment un tel acteur pourrait être en mesure de dégager les fonds nécessaires pour mener une vraie politique de transition énergétique. C'est clairement pas leur objectif et leur logique financière.
Hey Engie. Hey Engie. C'est une ancienne de GDF qui m'a dit que tu t'appelais Engie. Engie. Ça fait un moment que je te suis Engie. Hey, t'as changé de nom ?
Mais tu continues le charbon. Allez, Angie, quoi. Tu nous la fais pas. Stop, Angie. Ton énergie détruit. Wow, wow, stop, Angie. Tes profits pourris.
Stop, oh, bruit qui court.
Pendant qu'on dit ça, on est en train d'aller dans un quartier un peu moins chic du 8e arrondissement. Je suis un peu déçu, là. Moi, je pensais qu'on resterait sur les belles avenues autour de la place de l'Étoile. On va vers où, là?
Donc là, on va vers le bureau parisien d'un cabinet de lobbying qui s'appelle Fleischmann Hillard, qui travaille avec les grandes entreprises des énergies fossiles comme Total ou Shell, et qui travaille aussi de très près avec Monsanto sur la question des OGM et de la promotion des pesticides qui sont associés aux OGM.
Alors dites-moi, moi ce que je vois avec ce lobby tour à Paris, après avoir fait le lobby tour à Bruxelles, où je ne vous cache pas que j'étais un peu bluffé, quoi. Mais là, c'est un peu mon orgueil national qui remonte aussi. C'est-à-dire que nous aussi, on est très fort en lobbying. Nous aussi, on est très fort en agence d'influence et en cabinet de conseil pour grandes entreprises.
Ah, ça c'est sûr, on a souvent l'impression que les Français se font avoir par les lobbies bruxellois et que c'est les lobbies des autres pays qui arrivent à imposer leur point de vue sur les lobbies français, qu'on devrait être meilleurs en lobbying. Ah, c'est pas du tout vrai. On constate que non seulement il y a beaucoup de lobbying qui a lieu au niveau français, mais ça, bon, il fallait s'y attendre. Mais on constate aussi que les Français sont très actifs à Bruxelles pour faire du lobbying. On l'a vu avec dans le secteur agricole où
la PAC passe toujours et encore, voilà, malgré toutes les oppositions.
Ça vaut pour d'autres secteurs, comme les banques par exemple, où ils ont réussi à dépouiller de sa substance les tentatives de réforme du secteur financier en Europe.
Et de taxation sur les transactions financières.
Voilà, exactement.
Born at the merger of BNP and Paribas in 2000, BNP Paribas has become a leading bank in the Eurozone. It is a responsible bank in every area, economic, of course, but also social, civic and environmental. BNP Paribas, the bank for a changing world.
Comme un bruit qui court.
Zone d'évasion fiscale. Alors, il y a quelques centaines de personnes qui se sont réunies, qui se sont rassemblées devant les grandes portes en fer forgé du siège central de la BNP Paribas, boulevard des Italiens à Paris. Voilà. Il y a une forêt de caïmans gonflables avec des pancartes. L'argent pour le climat est dans les paradis fiscaux. Changeons le système, pas le climat. Stop évasion fiscale. Et des drapeaux ou des t-shirts d'Alternativa, d'Attaque, d'ANV, COP21, Action non-violente, COP21. Et tout ça derrière une rue balise siglée zone d'évasion fiscale. Alors Tchetch, on se retrouve aujourd'hui devant le siège central de la BNP Paribas. En pleine COP21 cette fois-ci, justement, il faut continuer d'autant plus à augmenter le rapport de force vu la lenteur des négociations officielles.
Aujourd'hui, nous sommes réunis devant le siège central de la BNP que nous avons donc fait fermer. Nous savons qu'ils ont annulé tous leurs rendez-vous aujourd'hui. On sait qu'il y a plus de 20 filiales et sous-filiales de la BNP dans ces îles Caïmans. Et c'est très grave, notamment dans la situation actuelle, parce qu'il y a notamment l'argent d'évasion fiscale, mais on peut se demander aussi s'il n'y a pas l'argent du narcotrafic, du terrorisme et de ce qui cause ces attentats qui ensanglantent le monde.
Allô ?
Ouais.
Bonjour et merci à tout le monde donc d'être venu à cette opération. Prenons le siège de la BNP qui rentre dans le cadre d'une campagne qui se mène depuis 2 mois à l'appel des faucheurs de chaises. Il y avait eu un appel donc de ces faucheurs de sièges qui avait été publié, signé par un ensemble de personnalités dont certaines sont présentes ici. Patrick Viveret, Claude Alfandéry, José Bové, Pierre Larouturou. Il y avait également Edgar Morin, Suzanne Georges et beaucoup d'autres personnes. Alors, je vais vous présenter un des premiers receleurs de chaises, parce qu'il y a les faucheurs de chaises et il y a les personnalités, les organisations qui les recèlent, puisqu'aujourd'hui, on en est à 235 chaises, plus déjà au moins 6 ou 7 qui viennent d'être réquisitionnées dans une agence à la Bastille, c'était la prise de la Bastille ce matin. Et donc, ces chaises-là sont recellées par des personnalités, des organisations qui les amèneront ce dimanche à Montreuil au sommet des 196 chaises. Donc je vais passer la parole à Patrick Viveret qui est un de ces receleurs. avec Edgar Morin et Claude Alfandéry qui est ici présent. Il y avait aussi Suzanne Georges, il y avait Alain Caillé. Nous avons organisé une chaîne de solidarité après la réquisition de chaises à HSBC pour manifester l'importance d'un débat public sur les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. Et pour les mêmes raisons, nous soutenons l'extension de ce mouvement à l'ensemble des banques qui pratiquent l'évasion fiscale, dont la BNP. Et je rappelle aussi, puisque nous sommes au cœur de l'actualité, que Daesh voit ses financements démultipliés par l'existence des paradis fiscaux, que ce soit dans le blanchiment de l'argent du pétrole qu'il exploite ou que ce soit dans l'accès au trafic d'armes. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes ici.
Alors, une chose qui vient d'être prise à la Bastille, c'est la prise de la Bastille aujourd'hui. Le peuple récupère ses biens, ce qui est à lui. Alors, on attendait une bonne nouvelle que la direction de la BNP nous annonce la fermeture de ses filiales, ses sous-filiales dans les îles Caïmans, mais on est déçu, on n'a pas eu cette nouvelle. Donc, on va clore pour l'instant ici cette opération qui ne fait que commencer et qui va connaître des amplifications dans les semaines à venir.
Toutes ces chaises seront réunies, les 196 issues de l'appel, au sommet des peuples. Donc le sommet des 196 chaises ce dimanche à Montreuil, à 12h. Donc on vous invite aussi à venir à ce sommet des chaises, où, sur lesquelles seront ainsi des représentants des 5 continents, qui sont bien évidemment les premières impactées par le dérèglement climatique.
Et il y en aura peut-être d'autres.
Voilà. Tout le monde se lève, c'est la fin de l'action. Devant le siège central de la BNP Paribas.
Ce qu'on entend là tout à l'heure, c'est le bruit du chariot, du petit diable qui transporte les exemplaires du lobby tour Paris spécial COP21 qu'a fait l'Observatoire des multinationales et Corporate Europe Observatory pour essayer de comprendre qui est à l'œuvre dans ces négociations. Il y a bien sûr les Nations Unies, il y a bien sûr les maîtres du monde politiquement élus ou non, mais il y a aussi 62 sponsors, dont 95% de grandes entreprises, parmi lesquelles EDF, Engie, BNP Paribas, Nissan, Renault, Air France et ainsi de suite, qui sponsorisent cette conférence sur le climat et surtout qui essayent d'infléchir les négociations dans un sens qui soit business friendly. Business friendly, c'est-à-dire propice aux affaires. La grande affaire du climat ou le climat des affaires. On est où là ?
Centre d'hydrocarbures non conventionnels. C'est un groupe en fait très pro-fracturation hydraulique, gaz de schiste.
C'est un très beau bâtiment moderne, étoile Saint-Honoré dans le 8e arrondissement de Paris.
Donc il y a beaucoup d'entreprises françaises, il y en a à peu près 25 dans ce groupe de pression. On en a qui sont directement impliqués dans la fracturation hydraulique, comme Total, mais d'autres qui sont plus des entreprises de services ou des entreprises d'eau. Et ce dont parle Olivier, c'est que la France, en fait, aurait les plus grandes réserves de gaz de schiste de toute l'Europe, mais la France a un moratoire. Donc il y a une opposition publique qui a amené à ce moratoire, mais les entreprises françaises continuent à vouloir combattre ce moratoire.
Oui, là, en fait, on est devant une espèce de bastion de résistants, de gens qui veulent changer la loi.
Voilà, c'est ce qu'il dit. Et ils ne veulent pas la changer directement. Là, ils essaient de la changer indirectement, puisque là, leur mission est principalement de sortir des études scientifiques, montrer que les gaz de schiste ne sont pas si polluants que ça. Il n'y a pas de problème. Pas cher et pas polluant.
Energy has to be better.
Safer. Cleaner. More accessible.
It's our responsibility.
And our commitment to make it better.
For all of us.
Total. Committed to better energy.
Là, on arrive devant la chambre de commerce et d'industrie. Grand hôtel particulier, avec des belles grilles et un drapeau français et européen.
So this is Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Donc on est là pour deux raisons. La première, c'est pour parler des groupes industriels français. Il y a quelques semaines, Influence Map, qui est une organisation britannique, a regardé les positions politiques des différents groupes d'entreprises à travers le monde, surtout leur position sur le changement climatique. Et ils ont trouvé que le MEDEF était le pire. Encore pire que les groupes de pression industrielle américains, encore pire que Business Europe, par exemple, à Bruxelles. Pourquoi ? La première, c'est parce qu'ils sont obsédés par le gaz de schiste. Pour eux, le gaz de schiste est la solution à tout. Et ils veulent aussi la compétitivité. C'est le mot-clé, c'est ce qu'on entend en France depuis 4 ans, pour les politiques sociales, pour les politiques de droits de travail, mais également pour le climat. On peut faire ce que vous voulez pour le climat, mais ça ne peut pas affecter notre compétitivité.
Il faut de la compétitivité, il faut retrouver rapidement de la compétitivité et de la croissance.
Le politique doit nous faire l'environnement de compétitivité et de confiance.
Il faut rétablir la compétitivité d'entreprise.
Si on veut créer de l'emploi en France, il faut des sociétés compétitives.
Je demande à nos ministres, à nos députés, qu'ils arrêtent de créer des lois anti-économiques.
Rue Balzac, dans le 9e arrondissement, on continue notre balade sur notre lobby tour. Mais c'est pas le lobby tour qu'on avait fait à Bruxelles autour du Parlement européen, c'est le lobby tour à Paris pendant la COP21. Mais alors là, c'est la Chambre américaine de commerce. Alors on est passé devant la Chambre de commerce et d'industrie française.
Oui.
Eux, c'est la même catégorie ?
Pas tout à fait. En fait, la Chambre américaine est une institution qui est beaucoup plus privée, en fait, avec des membres qui payent pour en faire partie, alors que en France, les chambres de commerce et d'industrie ont encore pas mal de liens avec les pouvoirs publics. Alors, la raison pour laquelle on s'est arrêté devant la Chambre américaine de commerce, pour faire le lien, justement, entre commerce et climat. Puisqu'il y a, en fait, beaucoup de politiques climatiques qui pourraient être mises en place après la COP21, pourraient être remises en cause ensuite par les tribunaux privés. En fait, ces tribunaux privés, ils existent déjà, ils font déjà partie des traités d'investissement et de commerce. Donc on a déjà des exemples de comment ils sont utilisés.
Et c'est ce que veulent nous apporter les accords de TAFTA.
Exactement, du TAFTA et du CETA aussi.
C'est-à-dire qu'on passe au-dessus des juridictions des États.
C'est des entreprises qui mettent en justice les États, donc c'est une justice à voie unique. Et on a aussi une justice qui répond à des règles privées, donc qui se fait par exemple dans une chambre de commerce ou qui se fait à la Banque mondiale. Avec des juges qui ne sont finalement pas des juges puisqu'ils n'ont pas de salaire. Ce sont ce qu'on appelle des arbitres qui sont payés par cas. Et donc c'est là en fait tout le cercle vicieux puisque c'est une justice qui est initiée uniquement par des investisseurs qui payent des arbitres, donc des juges, les gens qui vont décider sur ces cas, qui vont avoir intérêt à donner justice en faveur des investisseurs puisque ensuite ils iront ouvrir de nouveaux cas qui ouvrira de nouvelles opportunités économiques pour les cabinets d'avocats.
C'est formidable.
N'est-ce pas ? C'est un cercle vicieux qui, en fait, qui explique pourquoi on a de plus en plus de cas à travers le monde, comme une entreprise canadienne, Lone Pipe, qui a mis en justice le Canada, parce que le Québec, après un référendum populaire, a décidé de ne plus faire de gaz de schiste.
Et le procès est en cours ?
Le procès est en cours, on n'a toujours pas de la conclusion.
Le gouvernement du Québec a entrepris le développement des ressources en gaz de la vallée du Saint-Laurent, sans le consentement des Québécois.
On parle de 20 000 puits. À 100 mètres des maisons !
Entre Montréal et Québec.
Pollution de l'air, pollution de la terre, pollution de l'eau.
On a-tu vraiment besoin de ça?
Il y a beaucoup de questions. Légitimes.
Tout ce qu'on dit, c'est que c'est à nous de décider.
Exigeons un moratoire pour que les choses se fassent proprement et dans notre intérêt.
Ça ressemble à rien, hein? C'est une entrée d'immeuble. Il n'y a pas de plaque, je vois pas de signe, juste un pauvre interphone dans une rue, une de ces rues tristes et impersonnelles du 8e arrondissement. Et si on rentre un tout petit peu, ah oui, on voit un cabinet d'avocat au premier, un cabinet d'avocat au deuxième, un cabinet d'avocat au troisième, et puis un peu plus haut, au-dessus d'une agence de gestion de capital, Fleischmann Hilliard.
Along this lobby tour, we've seen from companies to trade associations to lobby consultancies.
On a vu des consultants, des groupes d'entreprises, des entreprises elles-mêmes. Et en fait, tout ce qu'ils cherchent, en fait, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas un accord ambition à la COP21. Ce qu'ils cherchent plutôt, c'est ce qu'on appelle des fausses solutions. Donc, une agriculture climat ou intelligente, pleine d'OGM, une énergie nucléaire qui a beaucoup de risques et qui coûte énormément et qui en fait ne nous permettront pas d'avoir le futur dont on a besoin. On est dans cette situation-là parce qu'on a une relation très proche entre les entreprises qui émettent le plus et nos gouvernements qui en fait prennent des décisions avec le soutien des entreprises. Donc ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un mur entre ceux qui sont responsables du changement climatique et ceux qui décident des politiques futures sur le changement climatique. Donc c'est ce qu'on a vu à l'Organisation mondiale de la santé, où on avait des décideurs politiques sur les questions de santé qui ont été éloignés des lobbyistes du tabac. Non, je vous encourage à signer cette pétition justement pour demander un mur entre les lobbyistes et les négociateurs. Mais il faut aussi un changement dans l'opinion publique. C'est une des raisons pour laquelle on fait ces visites guidées. Parce qu'il faut bien savoir que quand la COP sera partie, ces entreprises seront toujours là et elles continueront à faire du lobbying à Paris, à Bruxelles et au niveau international. Le gouvernement français fera la même chose. Il faut que les gens voient où est le problème. Et quand la COP21 sera finie et qu'on risque de ne pas avoir l'accord dont on a besoin de pouvoir pointer les responsables. Et ces personnes ne devraient jamais être proches de nos décideurs politiques. Donc à Paris, on aura beaucoup d'actions, il y aura des gens qui vont faire des actions dans la rue et on peut faire encore d'autres visites si vous le souhaitez.
La pétition, c'est où alors?
Il faut aller à un site www.kickbigpollutersout.org et c'est là qu'on récolte des signatures. Pas billions de new million. It's Mr. Worldwide. Y el mundo es el patio. Live my dreams, y'all dormant. Category 6 is at storming. Take this as a warning. Welcome to global warming. I'm tired of this rap shit, cause all they do is rap shit about coke shit, crack shit, click clack shit. But they never sold coke, crack or click clack shit. That's why I'm laughing to the bank. Ha ha, bitch. Private jets, I'm on that mile high shit. Without Denver, I'm going to November. Earth, wind, fire, I'm off in September. George Lopez, Bulldog, you remember. Now I'm stalked by bankers and lenders. Fuck these fake sugar ass niggas, Splendor. I see your game, your plan, your agenda. They'll push your shit way back to Nintendo. No Facebook, Twitter, or Instagram. I do it for the paper, I'm a businessman. If you get it, that's cool. It's all about the billionaires, baby. Welcome to the new school.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Messieurs, dames, bonjour. Merci de bien vouloir vider vos poches.
Solution COP 21 Paris 2015, l'exposition des solutions pour changer d'époque. C'est au Grand Palais et ça ouvre ce vendredi 4 décembre, entrée libre. Pendant 7 jours, ce sont ainsi plus de 500 organismes, dont 200 partenaires issus des milieux associatifs, scientifiques, universitaires, institutionnels, des TPE-PME, grands groupes et des collectivités territoriales, qui présentent leurs solutions climat et proposent un autre regard et une expérience inédite. Solution COP 21 est là pour montrer aux petits et grands ce que cet engagement va nous apporter à tous et à chacun.
Toutes les entreprises qui sont ici, nous aimerions pouvoir discuter, donner notre point de vue de façon parfaitement...
Intermarché est ici. Intermarché se présente comme une entreprise responsable. Il faut savoir qu'Intermarché continue la pêche en eau profonde et a saboté la directive européenne pour l'interdire. Avril fait la promotion des agrocarburants. Vous le voyez sur leur stand, malheureusement nous ne pouvons pas y aller. Mais Avril explique que tous ces biocarburants sont faits à partir de colza et de tournesol. C'est vrai. Sauf que la consommation d'huile en Europe a doublé, qu'il n'y a plus d'huile de colza et de tournesol qui est disponible pour les industries de l'agroalimentaire et qu'en réponse, les industriels de l'agroalimentaire doivent emporter des quantités massives d'huile de palme.
Alors c'est le lobby tour qui continue ici au Grand Palais pour dénoncer les fausses solutions de la COP21.
Laissez-le. Vous pouvez observer qu'ils nous ont proposé de faire le lobby tour et que maintenant ils veulent m'amener dans leur cellule de crise. Non, je n'irai pas dans votre cellule de crise. La crise, c'est la crise climatique. C'est celle dont ces entreprises sont responsables. Donc je vais pouvoir continuer à discuter. Là-bas, là où on m'empêche d'aller, il y a des banques. Ces banques sont responsables des changements climatiques. Hier soir, nous avons organisé les prix Pinocchio. Nous avons donné le prix Pinocchio à BNP Paribas. Quatrième banque dans le monde en termes d'investissement dans le charbon. Non, je ne souhaite pas avancer. Je ne souhaite pas avancer. Les négociations n'avancent pas. On nous fiche ici et pendant ce temps-là, les entreprises...
qui ont fleuri sur les bras des gros bras là, qui nous encadrent.
Qu'est-ce que c'est que cette démocratie? Je ne comprends pas. Donc, si c'est possible, nous aimerions pouvoir continuer. Je vois que là-bas, on avait prévu d'aller visiter Renault. C'est extrêmement intéressant, Renault également. Puisque Renault, il faut savoir que le PDG de Renault, Carlos Ghosn, est le patron de l'AECA, l'Association européenne des constructeurs automobiles. La position de l'AECA est de dire le changement climatique, tout le monde est responsable. Les pays développés comme les pays les plus pauvres. Et tout le monde doit faire un effort. Derrière cette logique-là, c'est la négation même de la justice climatique. Voilà, tout cela a été parfaitement documenté et Renault doit arrêter ses agissements. On aimerait pouvoir avancer. S'il vous plaît, j'aimerais savoir un peu ce que nous proposent ces entreprises. Je suis très curieux de leurs solutions. Vinci et nos amis de Vinci, comment c'est possible de ne pas pouvoir aller parler de nos amis de Vinci qui ont une des plus belles places, juste devant le podium central. Vinci aujourd'hui continue de construire un aéroport Notre-Dame-des-Landes. Vinci construit des autoroutes en Russie, l'autoroute de Khimki. Il faut savoir que sur le budget de la région Pays de la Loire, le budget de transport, la moitié va aller pour la desserte de cet aéroport, alors que nous manquons de transport en commun. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 8 fois plus d'argent public émis à soutenir les énergies fossiles qu'à soutenir les énergies renouvelables. C'est absolument scandaleux. C'est simplement ça que nous voulons expliquer. Voilà. Simplement que les gens voient le problème qu'il y a.
Il est rattrapé violemment.
Liberté d'expression.
Résolution, pas de
coordinateur des campagnes des Amis de la Terre France.
Comment
Sylvain Angeran, coordinateur des campagnes des Amis de la Terre France.
Justice.
Moi, je suis président des Amis de la Terre France.
Aussi,
il y a le directeur général de Peuple Solidaire, Action Aid.
Que des
personnes qui sont en permanence en train de discuter avec les ministres. J'étais encore avec Bernard Cazeneuve hier. Je suis membre au Conseil économique, social et environnemental. Nous ne sommes que des personnes qui nous impliquons à tous les niveaux de la République pour faire valoir notre parole. Et nous sommes reconnus pour ça. Je fais partie de la délégation française, à l'heure actuelle, dans la COP21. Et là, je suis franchement révolté de cette situation. Florent Compin, président des Amis de la Terre France. Si on ne pense pas que nous avons clairement des gens qui sont en train de porter les solutions pour le climat, et nous tenions simplement à le dire, ce n'est pas une manifestation, nous sommes totalement non-violents, mais par contre, en face, la réponse est clairement, elle, violente.
La presse se fait virer. Ah ben voilà. Et ils sont emmenés fermement vers la sortie. Alors effectivement, il y a de moins en moins de personnes dans ce grand palais. Ou alors il y a beaucoup de personnes mais qui ont sorti leur brassard orange police. Quoi. Donc voilà, encore quelqu'un qui court. Ils encerclent encore un petit groupe qui sont en train d'expulser. Voilà, 3 personnes dont une journaliste indienne qui était là. Voilà, l'idée du coup c'est de faire partir tout le monde. Donc il restera les partenaires. Et les policiers, quoi.
Ouais,
voilà, c'est un peu ça le projet.
Une COP21 bien propre, qui sent bon la fausse solution, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage qu'on ne nous ait pas laissé dérouler un discours voilà, un peu qui remet les choses à leur place. Mais bon, c'est pas faute d'avoir essayé, c'est pas faute d'avoir été non-violent. Et donc on voulait simplement en fait, tenir un discours devant les stands pour dire quel est l'impact réel d'entreprises comme Engie, comme Renault sur le climat, quoi. Donc bon, on ne nous a pas laissé faire ça. C'est pas pour autant qu'on va laisser tomber.
Donc vous, c'est Jedi for the Climate, hein, c'est
ouais,
ça.
C'est ça. Jedi, c'est Justice Ecological Defender Initiative. Ça veut dire les justiciers pour l'écologie et la défense climatique. On est un petit groupe d'activistes. Hein. On utilise le narratif de Star Wars, la guerre des étoiles. On n'a pas encore de sabre laser, mais si on a plus de fonds, à un moment, on va pouvoir le faire.
Et là, vous avez plutôt un costard bleu pour vous fondre au milieu donc, des partenaires. Quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais, je me suis mis sur mon 31 pour bien être incognito et pour être tranquille aussi, pour agir au mieux pendant l'action. Quoi. Mais là, je sens que la pression monte un peu et qu'il y a des...
On va arrêter l'entretien parce que le moindre micro devient
suspect,
disons, suspect ouais. Surtout ouais. Vers qui on le tend. Donc la personne vers qui on tend un micro est tout de suite suspectée de pouvoir avoir un discours qui serait dissonant dans ce merveilleux univers, dans ce merveilleux monde que nous propose donc les solutions COP21.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue pour cette cérémonie des prix Pinocchio, les pires méfaits des pires entreprises.
Bonsoir à tous, bienvenue à la cérémonie de remise des prix Pinocchio du climat pour dénoncer l'écart qu'il y a entre les beaux discours des entreprises et la réalité. Et donc les prix Pinocchio, c'est un appel à nos gouvernements pour mettre en place des législations contraignantes pour mettre fin à l'impunité des entreprises et mettre les peuples et l'environnement, le climat, avant les profits des entreprises.
Beaucoup, beaucoup d'émotions ce soir. Alors, première catégorie donc, greenwashing.
First category, greenwashing.
Catégorie greenwashing.
The winner, the loser.
And the big winner, loser is...
The winner is...
EDF.
Bravo.
EDF. Thank you, EDF. Please applause in EDF.
Partenaire de la COP21, EDF se présente comme un champion contre le changement climatique propre et sans CO2. Mais ils oublient leur centrale à charbon partout dans le monde et le nucléaire qui marche à l'uranium qu'on doit extraire, transporter, transformer. Et ça, ça a un coût en CO2. Bravo, EDF.
Congratulations, EDF.
De suite, deuxième catégorie, donc, l'impact local.
Local impact.
And the loser is...
The winner is...
BNP!
BNP!
Partenaire de la COP21, BNP est l'un des plus gros financeurs du charbon dans le monde. Bouh, BNP, bouh!
Thank you, BNP.
Merci d'être venu ce soir.
Thank you.
Donc on se donne rendez-vous l'année prochaine pour célébrer les compagnies les plus vertueuses. Voilà. Bonne COP21 à vous tous.
Good COP. Bye bye.
Merci à tous et à toutes. C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. Laissez-nous des messages, faites courir le bruit sur les réseaux sociaux et abonnez-vous au podcast. Sur le site de l'émission également tous les liens et notamment le lien pour signer la pétition Kick Big Polluters Out. Et nous vous recommandons également l'ouvrage de Maxime Combes, Sortons de l'âge des fossiles aux éditions du Seuil. Après les informations, vous retrouvez La Preuve par Z de Jean-François Zigel. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.